Alors, Malachie chapitre 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines », ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz « Grand est l'Éternel, par-delà des frontières d'Israël ». Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées, lequel de vous fermera les portes pour que vous ne n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors on va prier avant d'aborder ce chapitre dans la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous venons devant toi au début de ce moment ensemble pour demander que, Seigneur, tu viens par ton esprit. Que Seigneur, tu entres en nous, que tu ouvres nos pensées, que Seigneur, tu ouvres nos cœurs, que nous soyons ouverts devant toi et que Seigneur, tu te glorifies dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes facilement trompés par notre propre cœur, séduits par les péchés, Seigneur. Et nous voulons te demander de nous aider à écouter ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, et que nos cœurs soient prêts à se repentir devant toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a quelques années, il y avait quelque chose d'assez triste qui s'est passé chez nous en Angleterre. C'était un pasteur respecté, je le connaissais, en fait j'ai bénéficié de son ministère, il était quelqu'un de bien. Là, il faisait une implantation d'église, il y a une femme qui s'est convertie, il a commencé les études bibliques avec elle, son mari était présent, hein, tout était correct dans la maison, mais le mari était propriétaire d'une entreprise, assez grande entreprise, et il y a eu des appels d'urgence pour qu'il parte aider ici, là. Alors, il a répondu à ces appels, il est parti. Et la femme et le pasteur ont continué les études. Et petit à petit, au fur et à mesure, il y a eu, ce qu'on dit, les liens tissés entre eux. Et au point où finalement, le pasteur a quitté sa famille et ses enfants, et la femme a quitté son mari. Et voilà, ils sont partis ensemble. Une autre situation, presque pareil, il y a un monsieur qui donnait, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est son fils qui nous a donné une voiture quand on est venu en France. Il amenait une femme à l'étude biblique, à l'église, parce qu'il passait près de chez elle. Et ils allaient à l'étude biblique, il les ramenait chez elle après. Elle a commencé petit à petit à partager les difficultés dans sa vie. Il a sympathisé. Elle a commencé à parler des difficultés aussi entre elle et son mari. Il a sympathisé. Et finalement, après je ne sais pas combien de temps ça durait, mais elle a quitté son mari, il a quitté sa femme. Et voilà, ils sont partis ensemble. Pourquoi est-ce que je raconte ces histoires? Bon, selon notre connaissance, hein, si on écoute leurs paroles, tous les quatre marchaient avec l'Éternel au début. Ils disaient qu'ils étaient chrétiens. Hein, et on croyait, moi, je n'ai pas raison de douter de ça. Ce que j'ai vu, c'était les personnes qui croyaient en l'Éternel. À la fin, c'était les personnes qui n'étaient pas en communion avec l'Éternel. Et ça, c'est sûr. La parole est très directe dessus. 1 Jean 1, versets 5 à 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors malgré toutes leurs affirmations à la fin, ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y a, au début, ça allait, à la fin, ça n'allait plus. Il y a eu un glissement. Et je suis sûr que l'Éternel leur a parlé pendant ce temps. Qu'ils ont eu les avertissements, les moments où ils savaient qu'ils allaient trop loin, qu'il fallait revenir. Ils auraient pu se repentir. Mais ils ont continué. Tout en gardant une profession de foi devant les autres, d'être des gens qui marchaient avec le Seigneur. Et nous savons que c'est possible parce que nous avons l'illustration, n'est-ce pas, dans la parole, l'histoire du roi David qui a fait la même chose en tant que croyant. Et, je n'ai pas pu trouver, mais je pense, j'ai entendu quelque part, c'était presque 2 ans avant que Nathan a parlé à David. Il s'est repenti. Voilà, vous pouvez aller regarder. Mais David a pu continuer faisant semblant de marcher avec l'Éternel en tant que roi. Alors, on va regarder le prophète Malachie ce matin. Je ne sais pas si on le regardera encore. Je veux bien le faire, mais ça dépend du temps avec les études, avec les semaines d'évangélisation. Mais on va commencer. C'est chapitre 1. Alors, dans les prophètes de l'Ancien Testament, c'est une situation particulière. Parce que quand même, le peuple était loin de l'Éternel, hein, très loin. C'était un moment où ils se sont rétrogradés de manière sérieuse, très sérieuse, et il y avait le péché flagrant, ouvert, l'immoralité ouverte, comme nous verrons plus tard dans ce livre, l'idolâtrie ouverte, parce qu'ils construisaient même, nous savons à certains moments, les idoles dans le temple. Alors, c'était quand même très grave, plus grave que ce que nous trouvons dans les églises évangéliques d'aujourd'hui, il faut admettre. Même qu'il y a les moments difficiles, il y a les choses qui ne sont pas bien, on n'est pas à ce point-là, parce qu'ici, c'était flagrant. est ouvert. Alors, on doit quand même faire attention à comment nous interprétons certaines choses. Mais, comme avec ces histoires, tout péché flagrant commence quelque part dans le cœur, n'est-ce pas? Et c'est un glissement qui se passe, où on tombe de plus en plus dans ces choses. Et il faut vraiment chercher, n'est-ce pas, dans nos propres cœurs, dans votre cœur, où en suis-je avec l'Éternel? Et est-ce que ces attitudes commencent quelque part en moi? Et c'est ça qu'on doit se poser la question, ou on doit se poser la question ce matin. Malachi veut dire mon messager. Que ça soit un titre ou son nom actuel, on ne peut pas être catégorique. C'est un moment où, entre le, ils sont revenus de l'exil, Dieu, à cause de leur péché, les a amenés en exil. Ils sont revenus avec Zorobabel, Esdras, et ils ont reconstruit le temple, Néhémie, ils ont reconstruit les murailles. Alors Malachi venait à un moment où peut-être, on ne sait pas si c'était au même temps que Néhémie, mais c'est un moment où ils ont, le temple est déjà reconstruit et ils ont eu le temps de devenir un peu indifférents envers le service de Dieu dans le temple, envers le système de sacrifices. On voit que leur attitude est devenue indifférente. Ils méprisaient dans leur cœur l'œuvre de l'Éternel. Ils avaient des belles promesses. Surtout quand on lit par exemple le livre d'Agé, Dieu a fait des belles promesses et ils savaient que le Messie allait venir. Ils avaient beaucoup de choses pour leur donner un espoir, pour les motiver pour l'Éternel. Mais peut-être maintenant c'est un moment de patience, d'attente, où il fallait la fidélité à Dieu parce qu'ils ne voyaient pas encore les promesses accomplies. Et ils ont perdu quelque part cet amour qu'ils avaient au début. Et ils ont perdu cet désir de glorifier Dieu et cette crainte de l'Éternel. Et c'est vraiment comme aujourd'hui, n'est-ce pas? On a eu des promesses il y a 2000 ans maintenant, n'est-ce pas? Du retour du Seigneur Jésus. Nous attendons des grandes choses. Dieu va revenir dans ce monde. Et nous serons récompensés en Jésus-Christ. Et nous allons vivre avec lui. Et on a les belles choses devant nous, glorieuses. Mais c'est un moment, n'est-ce pas, d'attente. Ça fait 2000 ans sans que ces promesses s'accomplissent. C'est un moment de patience, de fidélité, où c'est quand même un peu aisé, n'est-ce pas, et facile à tomber dans une vie chrétienne convenable. Et c'est ça, c'est la situation, je pense, ici. Aussi. Alors, il écrit aux croyants, c'est écrit aux croyants ce livre, et c'est les croyants, il parle beaucoup de la crainte de l'Éternel. D'un côté, ils ont perdu la crainte de l'Éternel, et ceux qui étaient toujours fidèles, ils appellent ces personnes ceux qui craignent l'Éternel. La vraie crainte et la vraie foi vont ensemble, n'est-ce pas? Hein? Si nous croyons ce que la parole nous dit de l'Éternel. Si nous croyons tout ce que Dieu dit de lui-même, nous allons craindre l'Éternel. On ne peut pas avoir, ces choses ne peuvent pas être séparées, n'est-ce pas? Ils vont ensemble. Et voilà, la foi et la crainte. Alors ce matin, on regarde chapitre 1. Dieu commence en parlant de ce peuple, à ce peuple de son amour pour eux. Et après, il commence les reproches au sacrificateur. Et en chapitre 2, il continue ses reproches au sacrificateur. D'abord, il parle des sacrifices et de louanges, si vous voulez, dans le temple. Après, il va parler de l'enseignement, qui était aussi loin de ce que ça devrait être. Mais, bon, si vous voulez un titre, ce que j'ai mis, c'est « Examinez-vous vous-même, vous pouvez être hypocrite inconsciemment ». Vous pouvez être hypocrite inconsciemment. Il est possible que vous ne soyez plus dans la communion avec le Seigneur sans même en avoir conscience. Alors ça fait peur, n'est-ce pas? Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, examinez-vous vous-même. On va regarder d'abord versets 1 et 5. Êtes-vous toujours conscient de l'amour de Dieu. Hein? Êtes-vous toujours conscient de l'amour de Dieu? Après, versets 7 à 14, le reste du chapitre, est-il possible que vous méprisez Dieu sans en être conscient? Hein? C'est une question. Et finalement, et c'est là entre versets 10, 11, 14, ne soyez pas inconscient des avertissements de Dieu. C'est comme ça qu'on va aborder ce chapitre. Mais première question, êtes-vous toujours conscient de l'amour de Dieu? Et la réponse pour ce peuple dans ce livre est clairement non. Clairement non, ils n'étaient pas. Et c'est une bonne question, pourquoi est-ce que Malachi a commencé avec la question de l'amour de Dieu dans ces premières cinq versets? Je pense qu'il y a peut-être deux raisons. L'un, c'est parce qu'il va, reprocher ce peuple. Alors peut-être il veut les rassurer au début que Dieu les aime. Dieu ne fait pas les reproches pour vous éloigner de lui, pour vous écraser, mais pour vous ramener, n'est-ce pas, à lui, dans la repentance. Dieu vous aime, alors prenez bien ces reproches, revenez à lui. Et aussi, je pense qu'il y a un côté où, quand on pêche contre quelqu'un qui nous aime, c'est beaucoup plus grave, n'est-ce pas? Hein? Nous voyons tout ça. Moi, je m'appelle en tant qu'enfant, un jour, j'ai volé d'argent de ma mère, c'était sous son oreiller. Bon, mon ami l'avait fait déjà de son cousin, et quelque part, ça faisait grand d'avoir l'argent qu'on pouvait dépenser sur ce qu'on voulait. J'ai vraiment honte quand je regarde en arrière maintenant, de penser que ma mère allait peut-être dépenser cet argent sur moi pendant la journée, peut-être acheter de la nourriture, je ne sais pas, ou les vêtements, quelque chose. Et moi, je suis allé piquer cet argent sous son oreiller. C'est vraiment une honte, n'est-ce pas, quand on pêche contre quelqu'un qui nous aime. Personne ne vous aime autant que Dieu. Et quand on pêche contre Dieu, on pêche contre celui qui nous aime plus que personne. Et c'est grave, n'est-ce pas? Dieu commence avec l'amour, mais on voit la preuve de la manque de conscience de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, en verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Quelle réponse, hein? Quelle réponse à Dieu? Alors, est-ce que c'était une vraie conversation? C'est possible, mais je pense que c'est plus probable que Malachi écrit les paroles de l'Éternel, et l'Éternel est en train de dévoiler le cœur de ce peuple, de leur révéler ce qui était leur attitude et leur pensée à l'intérieur, de leur montrer comment ils étaient vraiment. Et ils ne pouvaient pas, sans doute, renier. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Alors, est-il possible vraiment d'être aussi ignorant de l'amour de Dieu? Je crois que non. Mais quelque part, on arrive, n'est-ce pas, à nous aveugler. On arrive à avoir une attitude qui met en doute le fait que Dieu nous aime. Et quand, peut-être, je dirais jamais une telle chose à Dieu. Mais quand je parle de ma semaine passée, et je parle à moi-même aussi, hein, quelle est mon attitude envers les choses qui se sont passées dans ma vie? Ou quand je regarde les situations autour de moi, quelle est mon attitude? Moi qui crois que Dieu est souverain, qui crois que Dieu contrôle toutes choses dans ce monde et dans ma vie personnelle, que tout vient de l'Éternel, et quelle est mon attitude envers ce qui se passe? Hein? Est-ce que j'ai des fois la colère ou l'amertume ou la déception ou le découragement? Et ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de mettre en question le fait que Dieu m'aime. Hein? Et c'est facile à faire. On le fait régulièrement, je crois. On se plaint des choses dans la vie et en fait, nous sommes en train de demander à Dieu, en quoi tu nous as aimés? Quelle chose devant l'Éternel? Alors, quelles sont les preuves qu'il donne pour montrer son amour pour eux? Bon, il parle ici, n'est-ce pas, du passé, on peut dire, du présent et du futur. Et c'est quand même l'amour de Dieu, n'est-ce pas, qui résonne avec ce peuple. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de répondre à une telle chose. Il aurait pu simplement quitter ce peuple, les abandonner, se retirer d'eux. Qui ose dire quelque chose de pareil dans leurs attitudes envers Dieu. Mais Dieu, dans sa patience, raisonne avec eux. Il parle du passé. « Je vous ai aimé. » Il parle du fait qu'en Jacob, il a choisi ce peuple d'Israël. Il dit que Jacob, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Maintenant, ce n'est pas une haine positive dans ce sens, mais il a aimé Jacob, il n'a pas aimé Ésaü. Et pourquoi Paul reprend ce passage, n'est-ce pas, en Romains chapitre 9? Et il dit, ce choix de Dieu était fait dans le ventre de la mère, avant qu'ils ont même fait le bien ou le mal. Il y a les gens qui ont vraiment un problème avec ce passage, qui n'est pas facile, j'accepte. Mais ils disent que sûrement Dieu connaissait l'avenir, il connaissait leurs actes qu'ils allaient faire. Il savait que Ésaü allait mépriser son droit d'aînesse, qui est vrai. Et moi, je suis d'accord, Dieu savait sans doute tout ce qui allait se passer dans la vie d'Ésaü. Il savait que Ésaü allait être comme ça. Il connaissait le cœur d'Ésaü, n'est-ce pas? Mais le problème n'est pas avec Ésaü. Le problème, c'est avec Jacob. Dieu connaissait Jacob et il connaissait le cœur de Jacob. Et le cœur de Jacob était aussi tordu que le cœur d'Ésaü. Et si Jacob a cru en Dieu plus tard, s'il y avait du bien dans la vie de Jacob, d'où venait ce bien? Ce n'était pas de lui. C'est la grâce de Dieu dans le cœur de Jacob. C'est Dieu qui a changé son cœur, qui a mis son esprit en lui. Alors si on va dire que Dieu connaissait l'avenir et il connaissait la vie de Jacob, Dieu connaissait simplement son œuvre en Jacob. Ça venait toujours de Dieu. Alors il n'y avait rien pour que Jacob soit choisi. Ce n'était pas de lui. C'était la grâce de Dieu. Et il leur dit, comme il dit à chacun de nous, je vous ai choisi. Pourquoi est-ce que vous êtes là en tant que chrétien ce matin? Pourquoi est-ce que je me suis converti 6 mois après avoir fait des tellement troublé une chrétienne? Mais ils ont prié pour moi. Dieu est intervenu. Ce n'était pas de moi. Ce n'était pas de Suzanne qu'elle était invitée, elle est allée à cette réunion. C'est Dieu qui est intervenu, qui a appelé à lui. Et c'est pour ça, cette raison-là que vous êtes là ce matin. Dieu vous a choisi, Dieu vous a aimé. N'oubliez jamais. Mais aussi, il fait référence au présent, n'est-ce pas? Parce qu'il leur parle de la situation d'Ésaü. Il dit, voilà, Israël sont partis en captivité, ils ont péché contre l'Éternel, mais l'Éternel les a ramenés, n'est-ce pas, maintenant, dans leur pays. Ésaü est parti en captivité, où il était, le pays maintenant est détruit. Il n'y a aucun espoir pour eux. C'est fini. Et quand on fait une comparaison, n'est-ce pas, entre le monde et un chrétien, c'est ça la situation. Oui, on passe par les moments très difficiles. Oui, le Seigneur discipline son peuple. Et c'est difficile des fois. Mais il nous ramène à lui. Mais le monde, quand il passe par les difficultés dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont sans Dieu et sans espoir dans ce monde. Et à la fin, ils ont Dieu, et c'est ce qui est difficile, n'est-ce pas? Ils ont Dieu pour leur ennemi. Hein, c'est ça que la parole dit. Et ici, ils disent qu'ils vont revenir, ils vont bâtir, je vais détruire. Et il y a ces paroles à la fin du chapitre 4. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Waouh! Quelle situation le monde est dedans. Et vous, en tant que chrétien, vous avez un Dieu qui vous aime, votre Père, qui a un avenir pour vous, qui est glorieux avec lui. Alors, Dieu vous aime. Et il parle de l'avenir en verset 5. « Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » Dieu nous aime. Mais regardez aussi maintenant, deuxièmement, versets 7 à 14. « Est-il possible que vous méprisez Dieu sans en être conscient ?» Maintenant, Dieu parle ici aux sacrificateurs. C'est les chefs du peuple, ceux qui dirigeaient, on peut dire, la louange, qui avaient la responsabilité d'enseigner le peuple la loi de Dieu, et ils portaient une plus grande responsabilité devant Dieu. Mais ce que Dieu dit au chef de l'Église, il dit aussi à chaque membre de l'Église, n'est-ce pas ? On doit tous être saints devant l'Éternel, on doit tous être fidèles devant Dieu, on doit tous vivre une vie sainte et craindre l'Éternel. Alors ça s'applique à tout le monde. Alors versets 6 à 7, on voit la preuve qu'ils étaient inconscients de leur mépris. On voit à la fin surtout le verset 6. Vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Inconscient. Et voilà, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? Alors, on voit la même situation, n'est-ce pas, que le verset 2. Dieu, qui dans sa patience raisonne avec ce peuple, est en train d'argumenter, de leur montrer que leurs actes, leur façon d'être, leur attitude montraient qu'ils méprisaient l'Éternel tout en étant toujours en train de faire semblant de servir l'Éternel comme le Seigneur a demandé. Le Seigneur a donné ce travail de sacrificateur. Ils accomplissaient de leur façon toujours ce travail de sacrificateur. Le Seigneur les appelle et enseigne le peuple. Et nous voyons au chapitre 2, d'une façon ou d'une autre, ils continuaient à enseigner le peuple. Le fait que vous êtes là ce matin n'est aucune preuve que vous êtes en communion avec Dieu. Hein? C'est ça qui fait réfléchir, n'est-ce pas ? Ils étaient capables, comme le roi David, de continuer à faire l'œuvre de l'Éternel, à faire tout ce que Dieu demandait, pas de la manière de demander, bien sûr, et faire semblant d'être en communion avec Dieu. Et ils étaient loin, loin de Dieu. Alors, n'ignorez pas l'occasion ce matin de vous examiner devant l'Éternel et d'entendre sa voix. Mais on voit la preuve aussi ici qu'ils étaient coupables. Dieu parle de leur péché, il les appelle à la repentance. Vous savez, il n'y a rien de pire que ignorer les appels de Dieu, ou quand quelqu'un nous montre notre culpabilité, de refuser de l'admettre, de endurcir le cœur. Il y a un homme qui est bien connu, et voilà, malheureusement, c'était un homme qui avait gagné du respect parmi les chrétiens, qui a eu un accident de voiture, et dans cet accident, il a heurté une femme et elle est morte. Et il s'est enfilé. Ça a pris du temps pour que la police la rattrape, et il était amené en justice. Mais quand le juge l'a condamné, apparemment, le juge a dit que le pire, c'est quand ils l'ont attrapé, il continuait à renier ce qu'il a fait dans les excuses, jusqu'au point où il n'était plus possible de renier, parce que les preuves étaient trop importantes. Mais ça, c'est vrai. Le juge a dit, c'est ça qui est triste avec cet homme. Hein? Et c'est vraiment grave, n'est-ce pas, quand on n'est pas prêt à voir ses péchés et se repentir. Et c'est le signe d'un chrétien, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'on voit un chrétien ? C'est celui qui entend la parole de Dieu, qui cherche dans son cœur, et est toujours prêt à se repentir, se détourner de ses péchés. Alors, quelles sont les preuves que Dieu apporte ici ? Attends, qu'est-ce que j'ai fait là ? Oui. Voilà. Alors, ça va, je suis là maintenant. Oui. Alors, la preuve était que la façon qu'ils venaient, leur attitude et les sacrifices qu'ils apportaient à l'Éternel, n'est-ce pas, qu'on voit dans ce chapitre. Et si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël et la situation, ils venaient devant l'Éternel et il fallait qu'ils apportent un sacrifice sans tâche, sans défaut, n'est-ce pas? Ça, c'était Dieu, ce que Dieu demandait. Deutéronome 15, verset 21. Et d'ici, il y a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il y a quelque autre déformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Alors, peut-être il ne comprenait pas l'importance de ce commandement, parce que nous savons aujourd'hui que chaque sacrifice qu'ils apportaient à l'Éternel était une image, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, qui allait donner sa vie en sacrifice à la croix. L'agneau parfait, une vie parfaite, innocente, pour mourir pour mes péchés, pour prendre sur lui le jugement de Dieu que je mérite. Lui qui était parfait. Et chaque animal était une image du Seigneur Jésus. Et Pierre dit en chapitre 1, versets 18 et 19, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Alors, même s'ils n'ont pas compris la signification de ces sacrifices, ils savaient ce que Dieu a demandé. C'était clair. Dieu a parlé clairement. Et ces personnes, ce n'était pas juste que quelque part il y avait un problème technique. Ils voulaient offrir en fait les animaux comme il fallait, mais peut-être ils n'ont pas remarqué que cet animal était aveugle, personne l'a vu, ou ils n'ont pas remarqué que l'animal boitait, peut-être une situation où il y avait plein de personnes, et voilà, c'est arrivé comme ça. Non, ce n'était pas ça. C'était que leur attitude n'était pas bien. Ils méprisaient, le Seigneur dit, la louange de Dieu, le service de Dieu. Dieu a parlé. Et ils n'ont pas obéi, ils ne sont pas obéis à ce que Dieu a dit. Et cette attitude de ne pas donner de leur meilleur ce qu'ils demandent ici faisait qu'ils méprisaient Dieu. On pense à. Bon, imagine mon fils, par exemple. Imaginez mon fils, il a une caméra, un appareil photo. Et ça ne marche pas bien, ce n'est pas terrible. Alors, ça prend des photos très moches. Alors, finalement, il en a assez de cet appareil, il le met dans le placard, il en achète un nouveau. Et c'est bien, ça prend les belles photos. Arrive mon anniversaire et je reçois un cadeau. C'est pas, Susan, souris, c'est pas une vraie histoire. J'ouvre le cadeau et qu'est-ce qu'il y a dedans? Cet appareil qui était dans le placard, qui prend les photos moches. Qu'est-ce que je vais penser de l'attitude de mon fils? Qu'est-ce qu'il a montré dans la façon qu'il a traité son père? Et c'est facile, n'est-ce pas? Vous dites, oh mais c'est terrible, je ne peux jamais faire une telle chose envers Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on est appelé, n'est-ce pas, à chercher d'abord le royaume de Dieu. Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à donner de notre meilleur à lui, de le mettre premièrement, premier dans notre vie. Lui d'abord. Et quelle est mon attitude dans la vie quotidienne? Hein? Quelle est la priorité que vous donnez à la communion avec Dieu chaque jour dans votre vie? Est-ce qu'en fait, d'abord, il y a plein de responsabilités, il y a plein de choses, je dois terminer, je dois faire. Et quand j'ai terminé toutes les autres choses dans ma vie, alors là, j'ai le temps pour l'Éternel. Ou quand les croyants ici, quand les frères et sœurs sont ensemble pour la prière, ou louer l'Éternel, ou étudier la parole de Dieu, et ils sont là pour recevoir de l'Éternel. Voilà, est-ce que vous êtes là si en fait il n'y a pas les autres choses qui gênent et qui sont venues dans dans la vie, ou est-ce que c'est la priorité? D'abord, le Seigneur et son service. Je donne à lui avant les autres choses, avec même mon argent ou les autres choses. Il est la priorité dans ma vie. Est-ce que je peux le dire? C'est une question, n'est-ce pas, qui révèle un peu le cœur. Et c'est un peu ce qui est arrivé ici. Ils sont arrivés à une vie, si on dit une vie chrétienne, vous comprenez ce que je veux dire, mais une vie chrétienne convenable. Ils pouvaient faire tout ce qu'il fallait et ajouter un peu de Dieu aussi, et ça allait très bien. Mais ils méprisaient Dieu sans en être conscients. Il résonne avec eux aussi du fait qu'il parle d'un père, il parle d'un maître, il parle d'un gouverneur. Et il leur montre que, voilà, vous serez dégoûtés sans doute si un enfant n'honorait pas son père. C'est naturel, n'est-ce pas, que j'honore mon père après tout ce qu'il a fait pour moi. C'est normal qu'on honore notre maître parce que, après tout, ma vie dépend de lui au niveau d'argent, hein, mon travail, etc. Et le gouverneur, bon, les autorités, on va les respecter, n'est-ce pas? Parce que sinon, on tombe dans les ennuis. Alors, la question, c'est, est-ce que j'ai la crainte aussi de Dieu? C'est ça la chose qu'il est en train de dire ici. Réfléchissez. Alors, maintenant, j'ai du mal avec cette phrase en français. J'espère que vous comprenez, mais je vais essayer de le dire correctement. Mais de qui avez-vous le plus crainte à offenser dans votre vie? Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est un peu tordu la phrase, mais qui est-ce que j'ai le plus de crainte à offenser dans ma vie? De manière bien ou mauvaise? Peut-être vous dites, moi je ne veux jamais offenser ma femme, ou mon mari, ou mes enfants. Non, je ne veux pas. Je les aime. Ou peut-être il y a les gens au travail. Oh, je ne veux jamais offenser cette personne parce que j'ai crainte. Ils sont capables de rendre ma vie horrible après. Hein? Qui est la personne que vous craignez le plus à offenser? Et où serait l'Éternel s'il fallait faire une liste des personnes? Est-ce qu'on peut honnêtement dire que c'est l'Éternel que je crains le plus? C'est lui que je ne veux pas offenser. Si on pense à un jeune homme qui tombe amoureux d'une fille et il sort pour acheter un cadeau, hein, quel soin il va prendre à acheter quelque chose qu'elle aime? Il va entrer dans tous les détails, n'est-ce pas? Parce que la dernière chose qu'il veut faire, c'est offenser cette fille parce qu'il veut gagner son cœur. Alors, quand on commence les comparaisons dans la façon que nous sommes envers les personnes de ce monde, les autres êtres humains, et comment nous sommes envers l'Éternel. C'est ça la question, n'est-ce pas, qu'il est en train de le poser. C'est quoi la cause et que serait le remède? On voit dans ce chapitre encore un corps qui parle de la grandeur de Dieu. Ils n'avaient plus la crainte de l'Éternel. Et d'où vient cette crainte? Ça vient d'une vision de Dieu qui est dans la parole de Dieu. De voir Dieu comme il est. La gloire de Dieu. La majesté de Dieu. La colère de Dieu. Il est le Dieu du ciel. Il est le Dieu de l'enfer. Ce Dieu est redoutable. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et si je n'ai pas cette vision de lui, je n'aurai pas la crainte qu'il faut de lui. Et une chose qui me frappe toujours en psaume 50, c'est là où Dieu dit que vous pensez que je suis comme vous. Il dit verset 21, « Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. T'imaginais que j'étais comme toi. Je ne suis pas comme toi. Dieu est saint. Dieu est lumière. Et faites attention de ne pas croire que Dieu, wow, Dieu comprend comme les autres humains comprennent. Dieu est saint. Il n'est pas comme nous. Il faut l'honorer, il faut le craindre, le servir pour qui il est. Mais troisième point, c'est, pour terminer, ne soyez pas inconscient des avertissements de Dieu. Dans ce chapitre, Dieu leur donne les avertissements. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les avertissements dans la parole? Des fois, on se dit, mais Dieu a promis le salut éternel aux chrétiens. Nous avons cette assurance, n'est-ce pas, d'être sauvés pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on fait avec les choses des fois qui donnent l'impression que Dieu va rejeter quelqu'un qui se dit croyant? Bon, qu'est-ce qui fait la différence entre un évangélique ou quelqu'un qui croit la Bible et quelqu'un qui est un catholique romain? C'est que nous croyons, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas ajouter à son salut. Ce n'est pas que Jésus-Christ a fait la plupart à la croix et maintenant moi je dois faire certaines choses pour que Dieu m'accepte à la fin. Non. Jésus-Christ a tout accompli. Il a pris mes péchés, passés, présents, futurs. Je sais que maintenant je suis couvert par la justice de Jésus-Christ. Je suis sauvé. Qu'est-ce qui fait la différence avec un témoin Jéhovah? C'est parce que les témoins Jéhovah croient que, voilà, Jésus est mort et maintenant on peut repartir à zéro et reconstruire maintenant notre propre justice, comme Adam au début. Non, Jésus-Christ donne sa justice et nous avons cette assurance. La différence entre nous et les musulmans, c'est que le musulman, quoi qu'il faut faire, n'est-ce pas, les bonnes œuvres pour plaire à Dieu et quelque part espérer que quand il y a ce balance à la fin, que ça va tomber en sa faveur. Non, nous croyons que Jésus-Christ a tout fait. Mais quelle est la preuve que mon cœur est changé, que j'ai vraiment reçu Jésus-Christ dans ma vie, que je suis né de nouveau et maintenant je vis pour lui et que j'ai une communion avec lui et j'ai la relation personnelle avec mon Dieu? Quelle est la preuve que je suis réconcilié à lui? C'est que quand il m'avertit du péché, quand il me parle des choses dans ma vie, j'ai la repentance dans mon cœur. J'écoute, je me détourne de ces choses. Et si je continue sans écouter, c'est la preuve que je ne suis pas vraiment à lui. Alors, l'assurance que j'ai que je suis chrétien aujourd'hui n'est pas qu'il y a 35 ans, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ ce matin. Je mets ma confiance en Jésus-Christ à ce moment. Alors si jamais vous avez des doutes, est-ce que vraiment je suis sauvé? Voilà la réponse. Règle-le à ce moment. Mettez votre confiance en Jésus-Christ maintenant. Et le problème est réglé, n'est-ce pas? Le passé est le passé. Alors l'assurance dépend de ce que je fais maintenant. Et c'est celui qui est chrétien, il met sa confiance, n'est-ce pas, en Jésus-Christ à ce moment même. Alors, il y a trois choses à ne pas oublier si votre louange est hypocrite, que moi j'ai trouvé en tout cas dans ce chapitre, pour terminer. Premièrement, Dieu ne veut pas de votre louange si c'est hypocrite. Il ne le veut pas. Regardez verset 10, où il dit « Lequel de vous fermera les portes pour que vous ne n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel ?» Je ne prends aucun plaisir en vous. Alors, franchement, si votre cœur n'est pas vraiment en règle avec Dieu ce matin, c'est mieux rester à la maison, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train de dire. Dieu ne veut pas une louange hypocrite. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui, n'est-ce pas? Alors il dit, si vous continuez comme ça, fermez la porte. C'est pire de continuer comme une hypocrite que de ne pas venir. Wow, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu demande qu'il ferme la porte de l'Église. Mais deuxièmement, Dieu peut accomplir ses desseins sans vous. Hein, là, nous verrons les promesses ici. Parce que quels étaient les desseins de Dieu pour le peuple d'Israël? C'était qu'il soit un témoignage au monde entier, que leur façon de louer l'Éternel, de glorifier Dieu, de servir l'Éternel, de proclamer son nom, toutes les nations autour allaient le voir et dire, l'Éternel est grand, et chercher la face de l'Éternel. Mais ils disent, vous profanez mon nom. Mais on voit en verset 11, et ici c'est une prophétie, hein, même que c'est dans le présent, ça parle de l'avenir. C'est sûr que le nom de Dieu n'était pas glorifié parmi les nations à cette époque. Mais il dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Même certaines traductions disent, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûlera de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux ici. Pensez à la situation. Combien de personnes dans le monde, quand Malachie parlait, glorifiaient le nom de l'Éternel, hein, à ce moment dans l'histoire? Il n'y avait surtout pas les nations autour, ils étaient idolâtres. Et même dans le peuple de Dieu, d'Israël, il y avait un petit reste, ceux qui craignaient l'Éternel. La plupart était dans un mépris des choses de Dieu. Et Malachie, dans cette situation, dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Quelle prophétie! Et aujourd'hui, vous pouvez voir, et c'est accompli, n'est-ce pas? Partout dans ce monde, il y a les personnes qui louent l'Éternel en esprit et en vérité. Dès le lever du soleil à son couchant, il y a des vrais croyants. Dieu l'a fait, c'est merveilleux. Un petit nombre à l'époque, quelle était la probabilité que cela s'accomplisse sans qu'il y ait un Dieu éternel à l'œuvre? C'est comme Jésus qui a dit à Marie, quand elle a loin, dans une petite pièce. Bon, je dis petite pièce, je sais pas la pièce, mais dans une petite pièce, dans une petite ville, dans un petit pays, à un moment dans l'histoire, Marie a rejoint Jésus. Combien de vrais croyants à l'époque? Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que vous avez des doutes sur la foi chrétienne? Mais comment vous expliquez les choses comme ça? Jésus, en Israël, dans une petite ville, dans une maison, dit, ce que cette femme vient de faire, le monde entier va entendre. Et aujourd'hui, c'est le cas. Le monde entier est au courant, n'est-ce pas? Toutes les nations, partout il y a des croyants. Oui, des fois c'est très petit le nombre, mais ils ont ces paroles, ils savent. Alors, mais ce que Dieu, l'avertissement ici à Israël, c'est que je le ferai même sans vous, n'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin de nous. Et dernièrement, Dieu va vous maudire. Alors là, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Et encore en chapitre 2, il dit la même chose, à la fin du chapitre, verset 2. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Est-ce qu'il n'y a rien de pire que d'être maudit,
de Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut même pas se tuer pour s'échapper à Dieu. Ça semble très courant aujourd'hui qu'il y a les gens qui commettent les atroces et à la fin ils se tuent. Voilà, comme Hitler, comme plein de personnes. Ils s'échappent à la justice? Non. Quelle chose terrible d'être maudit de l'Éternel. On ne peut pas s'échapper, n'est-ce pas, de ça. Il n'y a rien de pire. Alors, examinez-vous-même. Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes en communion avec lui, en vérité? Alors, pour conclure, rappelez-vous, Dieu vous aime. Ne perdez jamais la vision de l'amour de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Attention de ne pas mépriser Dieu, même en ne pas étant conscient, de vivre une vie de chrétien en nom et pas en vérité. Et écoutez, entendez les avertissements de Dieu ce matin.